En ce mardi 24 mai, la fin des classes arrive à grands pas et les familles préparent déjà leurs projets de vacances, comme on l'a vu en début d'émission. Mais quel genre d'été attend les familles qui ont un enfant vivant avec un trouble du spectre de l'autisme? On en parle avec Mme Joanne Lauzon, directrice de la Fédération québécoise de l'autisme. Bonjour Mme Lauzon.
Bonjour.
La fin des classes, comme on le dit, ça arrive dans quelques semaines. La plupart des enfants, des étudiants en sont à leurs examens finaux à l'école. Pour les enfants d'âge scolaire, l'école représente justement une forme de répit pour les parents, un service de garde parfois pour ceux qui travaillent. Qu'en est-il de l'été? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des ressources pour les enfants?
Je voudrais déjà vous dire en partant que c'est, oui, peut-être une forme de répit, c'est une façon de voir les choses, là, mais les enfants autistes, parce qu'on en a vu qu'ils se font expulser des écoles, ils ont le droit de fréquenter l'école comme tous les autres enfants. Là. Pour ce qui est des camps d'été, je voudrais que les enfants primaires, là, du niveau primaire, la majorité de ces enfants-là auront une place dans un camp de jour ou dans un camp résidentiel, que ce camp-là soit spécialisé ou non spécialisé. Excusez-moi. Là où ça devient plus difficile, c'est quand l'enfant devient adolescent ou adulte. On sait bien là que pour les adolescents non autistes fréquentent peu les camps de jour, parfois les camps résidentiels, là, les camps de vacances pendant l'été, mais il n'y a pas vraiment de camps de jour. Donc, un adolescent autiste qui aurait besoin de plus d'encadrement, il y aurait probablement des places en camp spécialisé, mais pas en intégration. Il n'y en a pas de camp pour les adolescents, ou presque. Et chez les adultes, bien évidemment, là, ça pose vraiment un problème. Ça devient, c'est des organismes communautaires qui travaillent en autisme qui peuvent organiser des camps à condition qu'il y ait le financement, ce qui est loin d'être certain. Puis les camps résidentiels, même chose, ça va être encore une fois une association en autisme qui pourrait organiser ça, mais c'est pas quelque chose qu'on trouve fréquemment là, ailleurs que dans le monde de l'autisme, d'avoir des places pour les adultes.
Qu'est-ce qui explique ce manque de ressources au fur et à mesure que l'enfant grandit?
Bien, c'est un peu comme pour tous les services en ce qui concerne les personnes autistes. L'accent a été mis sur les 2-5 ans là, pour l'intervention comportementale intensive. Donc, il y a beaucoup de sous qui sont mis pour les jeunes enfants, et étant donné que le taux de prévalence augmente énormément, on n'a jamais assez de sous pour arriver à répondre à l'ensemble des besoins, et on n'a jamais eu une offre de service qui a été complète là, en autisme. On travaille là-dessus, hein, il y a eu le forum en février, mais pour le moment, on n'a pas tous les services qu'il faut. Là.
Est-ce que toutes les régions font face à ce type de problématique?
Oui, effectivement. Et quand on commence à parler, il y a des enfants autistes qui ont des limitations fonctionnelles plus grandes que d'autres. Ils ont d'autres problèmes associés. Là, on parle vraiment de camps spécialisés. Et là, ça devient très difficile. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça coûte plus cher un camp spécialisé qu'un camp régulier, un camp de jour. Là. Donc, ça coûte des sous aux familles. Là. C'est plusieurs centaines de dollars par mois pour les camps spécialisés.
Tout à fait, entre autres parce qu'il y a des installations adaptées aux besoins des campeurs. Il y a parfois aussi du personnel supplémentaire qui est là pour encadrer ou pour prodiguer certains soins.
En fait, c'est plus de personnel hein, parce que le ratio est presque du 1 pour 1 à ce moment-là. Là.
Est-ce qu'il existe des répertoires pour connaître les ressources soit de camp de jour, soit de camp de vacances qui sont ouvertes aux personnes avec un trouble du spectre de l'autisme?
En fait, l'Association des camps du Québec, là, qui fait son répertoire à chaque année, il y a des camps spécialisés aussi à l'intérieur de ce bottin de ressources-là. Dans notre site Internet, chez nous, à la Fédération, on a, par région, on a les ressources et il y a des ressources, des services de loisirs au niveau des ressources spécialisées parce que c'est quand même un bottin de ressources spécialisées. Donc, ça va être seulement les loisirs spécialisés. Mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est que les camps qui font de l'intégration, nous, on les a pas dans notre site parce que ça varie, ça change à chaque année. Fait que ça serait trop difficile là, de garder ça à jour.
J'imagine que le plus tôt est le mieux quand il s'agit de faire une démarche pour inscrire son enfant à un camp.
Oui, exactement. Puis on a des familles, hein, le 1er juillet, qui vont déménager aussi, là. Fait que avec tout ce que ça suppose, on n'a pas nécessairement le temps de penser à réserver tout de suite une place au camp. Et là, ça devient problématique. Ce qu'on a vu, je ne sais pas pour l'été 2016, parce qu'on arrive là, mais les deux, trois dernières années, ce qu'on a beaucoup vu, c'est que un organisme qui organisait, mettons, un camp résidentiel, il rapetissait les périodes, c'est-à-dire qu'un enfant, mettons, pouvait le fréquenter pendant 4 semaines, puis l'année précédente, c'était 5 ou 6 semaines. On réduit les périodes pour lesquelles l'enfant peut le fréquenter afin qu'on puisse donner plus de place, finalement, là, d'avoir plus de jeunes qui puissent en profiter. Sauf que ça pose un problème pour la famille. Là.
Oui, tout à fait, parce qu'il faut, à ce moment-là, regarder pour pallier, en fait, et s'assurer que l'enfant continue d'avoir des activités, parce que c'est aussi une question de ne pas perdre les acquis en termes de développement et de stimulation.
Oui, aussi, effectivement, c'est d'autres formes de stimulation, puis c'est évidemment, il y a ce bout-là, mais il y a le bout aussi où, parce que, tu sais, ces enfants-là vont prendre des vacances d'été avec la famille aussi, là, mais souvent, les parents vont être obligés de faire concorder leur période de vacances avec la fin de la période de 40 jours que j'ai, là, pour être sûr que d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de l'enfant pendant tout l'été, ça devient très problématique, là, pour les gens qui travaillent, là.
On parle de... Bon, depuis le début, on parle surtout de possibilités de camp de jour, de camp de vacances. Par contre, il y a certaines familles qui vont choisir de rester en famille, d'organiser des vacances en famille. Quels sont les défis auxquels elles sont confrontées?
Bon, en fait, les vacances familiales, quand on décide, par exemple, qu'on s'en va tous en Californie cet été, ça peut devenir très complexe, là. On sait que les personnes autistes ont besoin de leurs repères, hein. C'est ça qui fait qu'ils se déstructurent pas, là. Ils ont leurs repères, ils ont leur routine, ils ont besoin de stabilité. Alors, les vacances familiales qui se passent à l'extérieur de la maison, c'est très déstabilisant. Fait que, en principe, ce que les parents devraient faire pour que ça fonctionne bien, c'est de préparer l'enfant à l'avance. Avant les vacances, par exemple avec des scénarios sociaux, un calendrier qui montre que l'école va finir, qu'il va avoir le camp de jour, puis qu'à un moment donné, oups, on va partir ensemble, on va prendre l'avion, tu sais, expliquer les choses d'avance pour que l'enfant ait des repères. Puis un enfant qui a plus de difficultés, il va falloir planifier aussi pendant le voyage. Par exemple, si on prend l'avion, on le sait, hein, faut être là 2-3 heures d'avance à l'aéroport. Mm-hmm. C'est des moments où l'enfant pourrait se désorganiser. Fait qu'il faut essayer de penser à l'avance. Comment on va l'occuper pendant ces moments-là? C'est son jouet préféré, par exemple, ou il y a d'autres enfants qui, avec un iPad, ils peuvent s'amuser pendant des heures. C'est pas le cas de tous les enfants, mais justement, essayer de trouver qui va faire plaisir à l'enfant pendant ces périodes d'attente-là pour éviter qu'ils se désorganisent.
Mm-hmm. Avez-vous des trucs peut-être plutôt dans les activités de quotidien? Là, on parle d'un voyage qui nécessite de prendre l'avion, qui nécessite quand même une grosse organisation, mais il y a aussi des petits voyages de tourisme intérieur au Québec.
Oui. Oui, en fait, ce serait la même chose. C'est toujours de préparer l'enfant au fait qu'on va changer les habitudes du quotidien. Donc, ça peut être, comme je disais, avec des scénarios sociaux. Ça peut être avec des photos, par exemple. Tu sais, mettons que je loue un chalet. Généralement, les gens sont allés sur Internet, ils ont vu les photos, tout ça. De prendre ces photos-là, de les montrer à l'enfant pour que qu'il sache où il s'en va, qu'est-ce qu'il va faire. Donc, on le prépare à l'avance et ça va éviter qu'il se désorganise à la mesure où il va savoir où on s'en va puis qu'est-ce qu'on fait.
Mm-hmm. On parle beaucoup de préparer l'enfant. Est-ce que ce sont les mêmes étapes aussi pour de jeunes adultes?
Ce serait le cas si c'est des adultes qui sont moins autonomes, là. Les personnes qui sont plus autonomes, oui, aussi, on va les préparer parce que les personnes autistes font toujours beaucoup d'anxiété avec les changements, mais on ne va pas les préparer de la même façon, là. Excusez-moi. Juste, c'est plus ils sont autonomes, moins la préparation est grande.
Mm-hmm.
Mais plus l'enfant a des limitations, ben là, il faut vraiment bien le préparer parce que ce qui va arriver dans son cas, c'est qu'il va se désorganiser, puis là, ben c'est la crise, c'est les larmes, c'est... Comme on dit, la tranche de bacon, là, c'est où tout le monde te regarde, puis ça crée beaucoup de situations embarrassantes pour la famille, l'enfant est pas bien. Donc, faut le plus possible là, préparer tous ces changements-là.
Oui, Madame Lauzon, je pose la question sans arrière-pensée. Est-ce qu'il y a une certaine sensibilisation qui est faite au Québec, ou dans le public en général, on parle beaucoup en fait, on voit que la famille a une certaine responsabilité de préparer l'enfant, préparer, bon, son jeune ou la personne avant de faire un séjour. Mais est-ce que, par exemple, les établissements hôteliers, est-ce que les gens sont plus ouverts à recevoir des familles qui viennent et dont un de leurs enfants vit avec un trouble du spectre de l'autisme? Et justement, ne pas figer devant la tranche de bacon.
Oui, effectivement, c'est une bonne question dans la mesure où, dernièrement, un parent a communiqué avec moi en me disant, ben moi, j'aimerais ça faire ça, sensibiliser les milieux. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui a un fauteuil roulant, ben on voit là à l'hôtel que les fauteuils roulants ils ont accès là. Puis elle me disait, j'aimerais ça sensibiliser les milieux pour qu'on on puisse recevoir les personnes autistes. Là. Tu sais, ce serait vraiment annoncé ici, nous recevons les personnes autistes, dans le sens de sensibiliser justement là, ces milieux-là. Je vous dirais que ça n'a pas été fait encore. Là. On a tellement de choses à faire en termes de sensibilisation que rendu aux vacances, c'est comme si on n'y pense plus rendu là, mais effectivement, on commence à en parler, puis ce serait très intéressant de le faire.
Mm-hmm. Justement, parce qu'on parle beaucoup d'accessibilité architecturale, entre autres. De plus en plus de personnels qui sont formés à l'accueil de personnes avec des limitations fonctionnelles. Mais donc, il reste encore du chemin à faire pour oui. donner une plus grande liberté aux parents, aux familles avec un enfant qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme.
Exactement.
Merci beaucoup, Joanne Lauzon, directrice de la Fédération québécoise de l'autisme. Merci d'avoir contribué tout au long de la saison de Ça vaut le détour avec vos chroniques mensuelles. On vous souhaite une belle saison estivale et on espère vous retrouver à notre micro à la prochaine saison.
Bien, merci infiniment puis bon été à tous.